Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que reste-t-il des populismes qui ont fait couler tant d'encre maintenant que le résultat des élections européennes est connu ? Tandis que La République En Marche totalise 23 sièges à Bruxelles aux côtés des écologistes que nul n'attendait mais qui en auront tout de même 13, la liste LR à la tête de laquelle François-Xavier Bellamy, portant l'étendard du renouveau culturel de la droite, a totalisé 8%, soit 2 de plus à peine que la France Insoumise dont le populisme lyrique devait balayer Macron et qui s'est effondré. Les listes des Gilets jaunes censées incarner le peuple ont disparu de la circulation, tout comme le mouvement lui-même d'ailleurs où peu s'en faut, et malgré son succès apparent, le Rassemblement National se heurte à un plafond de verre. Ce scrutin ne rend pas compte de ce qui s'est produit d'inouï ces derniers mois, se plaignait la philosophe Barbara Stiegler à Libération au lendemain du résultat, une plainte qui aurait pu être reprise à droite de la même façon. Toutes ces forces ont en commun d'avoir construit leur discours de légitimation sur le fait qu'elles seraient en phase avec le pays réel, le vrai peuple, muselé par une tyrannique minorité de bobos bien-pensants. Mais si c'était le contraire, si ces élections marquaient un retour à la réalité au contraire, loin des fantasmes des uns et des courses à l'audience des autres. Signe des temps a consacré plusieurs émissions au populisme cette année, et il est temps de se poser cette question maintenant que l'année s'achève, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Manuel Cervera-Marsal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, sociologue à l'université Aix-Marseille, spécialiste des mouvements sociaux et du populisme de gauche. Vous avez publié au début de l'année Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir aux éditions du Bordelot, et plus récemment un article dans Le Monde sur lequel on va revenir. Alexandre Devecchio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en Seine-Saint-Denis. Vous vous dites opposé à une société d'ordre où tout est joué à la naissance. Vous avez expliqué ça au journal L'Incorrect, qui vous a baptisé sans doute pour ça le conquérant. Et vous dirigez les pages idées du Figaro. Vous avez créé notamment le site de débat très réussi, le Figaro Vox.
Merci.
Et on peut dire que vous vous inscrivez au sein de la rédaction du Figaro dans la tendance qui n'est pas exactement opposée à Éric Zemmour. On peut dire ça. Vous
avez écrit, oui, on peut le dire.
Voilà. Jean-Claude Milner, enfin, bonjour. Vous êtes de formation linguiste, vous avez fait partie de cette génération inspirée autrefois par le maoïsme, mais vous êtes surtout aujourd'hui l'un des philosophes politiques majeurs de ce pays, peut-être un des seuls d'ailleurs, pour le dire clairement. En tout cas, certainement l'un des plus politiquement inclassables et des plus décapants. Je n'ai pas cité tous vos livres, juste quelques titres pour donner une idée de l'ampleur de votre réflexion, des champs qu'elle couvre, l'œuvre claire, Lacan, la science et la philosophie, Mallarmé au tombeau, les penchants criminels de l'Europe démocratique, le pas philosophique de Roland Barthes, le juif du savoir. Et enfin, après les considérations sur la France publiées en 2017, vous publiez cette année, vous avez publié juste avant les européennes, considérations sur l'Europe, une série d'entretiens avec le journaliste et ancien producteur de France Culture, Philippe Petit. C'est par vous que je vais commencer. Dans ce livre, vous dites « L'effondrement de Marine Le Pen au présidentiel devant Macron n'est dû qu'à son équation personnelle. Mettez un énarque en face d'un populiste, 9 fois sur 10, il perdra la partie. Supposons que les élites se perpétuent telles qu'elles sont, la victoire idéologique des populismes de droite et de gauche est assurée en Europe occidentale. » Est-ce que vous le pensez toujours aujourd'hui, au vu des résultats des européennes ?
Oui. Oui. Oui, je ne vois rien qui me conduise à penser autrement. La victoire ou semi-victoire de la liste de La République En Marche est plutôt une victoire de ce que j'appellerais un parti de l'ordre. C'est-à-dire que après la période dite des gilets jaunes, faute de mieux, il y a eu de la part de ceux qui considèrent le bulletin de vote comme un moyen d'expression politique, et il y a eu le souhait de manifester que en dernier ressort, l'ordre social était quelque chose à préserver. Plutôt qu'une victoire idéologique, en fait, le contenu idéologique de la campagne de La République En Marche a été assez faible. Enfin, ça a été...
c'est une campagne extraordinaire, on peut pas dire, oui.
Oui, enfin, ça a été l'Europe, mm-hmm. comme disait autrefois De Gaulle, avec des sauts de chaise comme des cabris. Et puis, une fois qu'on avait dit l'Europe, après, c'était la France. Et puis, une fois qu'on avait dit la France, c'était après, c'était des choses du genre pas de prospérité sans justice sociale, pas de justice sociale sans prospérité, enfin, des choses de cet ordre. Donc, le contenu idéologique n'était pas très, très marqué. Et d'un certain point de vue, vue, je dirais que c'était la meilleure des choses à faire pour une tendance politique dont, en réalité, la véritable force était une demande de retour à un ordre, au sens ordre social, ordre économique, etc.
Le statu quo, quoi.
Un statu quo, pas forcément un statu quo en termes de personnel politique, oui, très certainement. Mmh. Il n'y avait absolument aucune demande de changement de tête. J'ai même été frappé par le fait que, d'un côté, dans la rue, on voyait Macron démission partout. Dans la réalité des votes, ça n'a pas du tout été un thème mobilisateur. Mmh. Et on a tout le temps parlé du dégagisme. Il a certainement eu lieu lors des présidentielles. Là, c'était pas du tout ça. Mmh. Le Premier ministre ne change pas. Les ministres principaux ne changent pas. Il n'y a pas de demande très forte dans ce sens-là. Donc, je vois plutôt une sorte de statu quo du point de vue des personnes. Alors, du point de vue de ce qu'elles seront appelées à faire, c'est pas tout à fait la même chose. On demande une sorte de différence de style. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais une différence de style, ça veut dire parler et agir de telle façon qu'au moins une partie de la presse puisse dire « c'est pas si mal », plutôt que d'obtenir cette espèce de consensus négatif qui était, les mois précédents, sur le thème, en gros, quoi que fasse ou dise le chef de l'État ou le Premier ministre, c'était pas ça, c'était trop tôt, c'était trop tard, c'était trop lent, trop rapide, etc. Là, c'est donc un changement de style, ça serait quelque chose qui obtiendrait une sorte de ralliement de 30 à 40% de la presse. Pas beaucoup plus, mais ça suffit.
Alors, Manuel Severa Marzal, je vais continuer par vous. Est-ce que ce ralliement, finalement, à l'ordre, n'est pas d'abord un échec pour la stratégie populiste de la gauche ? C'est ce que vous avez l'air de sous-entendre, plus ou moins, dans l'article du Monde que vous avez publié au lendemain des élections. Hein. Vous dites, et pas seulement sur les élections françaises, d'ailleurs, vous faites le parallèle entre ce qui s'est passé en 2015, où Syriza en Grèce, Jérémy Corbyn en Angleterre et Podemos en Espagne réalisaient les meilleurs scores électoraux de leur existence, où ils étaient en pleine ascension. Aujourd'hui, la gauche radicale, vous écrivez, n'a plus que 41 députés au Parlement européen, soit 20% de moins que durant la précédente mandature. Podemos est marginalisé en Espagne. En Grèce, la défaite de Syriza a poussé Tsipras à convoquer des élections générales anticipées. Le labour de Corbyn est coincé entre l'ambiguïté sur le Brexit et sur l'antisémitisme supposé de ses adhérents. Et en France, c'est la catastrophe pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que le populisme de gauche, ça fonctionne ou est-ce que c'est complètement une illusion ?
Ben, c'est compliqué, on ne peut pas apporter de réponse tranchée. Justement, ce que j'essayais, c'était un petit peu de tirer un bilan nuancé de cette stratégie populiste qui est relativement nouvelle pour la gauche, parce que ça fait 5-10 ans que les partis de la gauche radicale européenne ont en partie, de manière parfois assumée, de manière parfois moins assumée, entamé ce tournant populiste qui consiste, s'il fallait le résumer à quelques grands traits, à essayer de laisser parfois un peu de côté les symboles traditionnels du mouvement ouvrier, comme le drapeau rouge, l'international, pour essayer de renouveler un petit peu le langage en parlant plutôt de la démocratie et du peuple. Il y a ça, il y a la deuxième idée, c'est vraiment mettre en avant un leader charismatique qui incarne les aspirations populaires. Et puis, troisième idée, c'est de s'appuyer sur les affects, de parler aux émotions, pas seulement à la raison. Il y a tous ces éléments-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans une première phase, ça fonctionne plutôt bien, ça permet des ascensions électorales assez fulgurantes. On l'a vu pour Podemos, pour la France Insoumise. Ça a permis à Corbyn de s'emparer contre tout l'appareil du Labour, de la tête du parti. Ça a permis à Syriza d'arriver à la tête en Grèce. Mais en fait, c'est assez peu endurant. Voilà, ça permet de monter en flèche, mais ça, sur la durée, ça se révèle pas forcément très porteur. Et alors, la question que je me suis posée, c'est bien, mais comment essayer de comprendre ce paradoxe et du coup, ce net recul quand même des forces de gauche radicale dans leur version populiste. Et là, je crois qu'il faut différencier plusieurs facteurs. Il y a quand même des facteurs qui sont des facteurs structurels, indépendants de la stratégie de ces partis. C'est que quand vous êtes dans un contexte où les grands sujets mis à l'agenda médiatique, dans le débat public, c'est l'immigration, c'est l'identité, c'est des histoires nationalistes, bah oui, ça fait le jeu de la droite et de l'extrême droite, et assez mécaniquement, ça entrave la dynamique de la gauche radicale, mais aussi de la gauche social-démocrate, qui a perdu presque une quarantaine de sièges au Parlement européen. Donc il y a ces facteurs extérieurs. Autre facteur extérieur, c'est quand même qu'il y a des campagnes médiatiques assez ignominieuses qui ont été lancées contre ces partis. Je vais donner un seul exemple, mais qui reflète assez bien tout ça. En Espagne, Podemos a été accusé d'être financé par le Venezuela. Il y a des documents qui étaient des faux, qui ont été écrits conjointement par des hauts responsables du ministère de l'Intérieur et par la presse de droite. Des faux qui étaient censés prouver que Podemos était financé par le Venezuela. La justice a fait son travail, a démontré que c'était pour le coup un complot sans nom. Mais pourtant, 50% des Espagnols continuent de penser que Podemos est financé par le Venezuela.
Les fake news, ça circule au bout de tout le monde.
Non, ça ne circule pas aussi fortement auprès de tout le monde. Non, je pense que là, vous regardez. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais ça reste dans la tête. Voilà, le mal est fait. Donc il y a ça. Et après, il y a quand même un troisième élément, c'est effectivement que, et là ça appelle à une autocritique de ces forces populistes de gauche, c'est que adopter par exemple des idées comme l'idée de Patrick, quand bien même on essaye de la resignifier, de lui donner un contenu différent de l'idée de la droite, ça peut, en tout cas c'est un risque, ça peut à court terme vous servir quand vous êtes des populistes de gauche, mais à long terme ça peut faire le jeu de la droite.
Alexandre Devecchio.
Je vais répondre sur les populistes de gauche. J'ai étudié la question au niveau européen, même au niveau occidental. Moi je fais pas du tout la même analyse. Je crois pas que effectivement ils se sont effondrés, mais parce que précisément ils ne sont plus populistes, ils ne sont plus qu'une gauche radicale. Je prends différents exemples, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui après la présidentielle a abandonné cette stratégie-là, a fait de la gauche CGT, s'est dit Macron va finalement faire des réformes de droite, donc va finalement devenir le leader de la droite, et donc il s'est aligné sur un discours de gauche. Podemos, c'est la même chose, ils ont mis de côté leur grand stratège qui était Iñigo Errejón, et ont abandonné leur discours patriotique au profit d'une union des gauches plus classiques, d'abord avec le Parti communiste et maintenant même avec le Parti socialiste. Et enfin, Tsipras, troisièmement, il fait un référendum, il en appelle au peuple pour ensuite se coucher devant les institutions européennes. Donc je ne crois pas du tout que c'est la stratégie populiste qui fait que les scores sont mauvais, mais précisément l'abandon de cette stratégie populiste, c'est le retour à une stratégie de gauche radicale, et vous faites tout simplement les scores de la gauche radicale, alors que Mélenchon avait justement conquis une partie de l'électorat populaire et des abstentionnistes dans la présidentielle.
C'est le discours qui se tient à droite aussi, mais il me semble que les candidats populistes n'ont pas fait mieux tellement. Hein. Je rappelle ce que Valeurs Actuelles écrivait sur François-Xavier Bellamy pendant la campagne. Hein. Il se révèle comme celui qui relève la famille de droite. C'est l'heure du sursaut. Il est jeune, il est beau, il est cultivé, il est intelligent. Vous-même, dans le Figmag en septembre 2018, je crois, sur Bellamy, je vous cite, à le voir, c'est sur la scène du théâtre Saint-Georges, impossible de ne pas penser au petit prince. Comme le héros à la chevelure dorée et à l'écharpe aérienne, il semble débarquer d'une autre planète, non pour soigner l'âme de l'aviateur égaré dans le désert, mais celle d'un public en quête de sens, etc., etc. 8% au bout du compte. Est-ce que vous pensez que les politiques sont là pour donner du sens, déjà? Est-ce que Bellamy, vous jouez vraiment ce rôle? Ou est-ce qu'il y a une erreur totale de vision là-dedans?
Je crois pas. D'abord, on a pris la question du populisme sous un angle un peu villageois, parce que il y a quand même des résultats partout en Europe qui montrent une progression. Je prends le score de 52% d'Orban, précisément quand ils sont au pouvoir. En plus, celui de Salvini à 30%, celui des Polonais à 40%, celui du Brexit Party en moins de 2 mois. Donc, il y a quand même un phénomène populiste qui perdure en Europe. Ensuite, je pense que sur Bellamy, je partage pas forcément votre analyse. Je pense qu'il a jamais été populiste. J'en dis du bien dans l'article. En tant qu'intellectuel, je finis en disant que je suis pas sûr qu'il faille qu'il aille s'égarer en politique. Et ensuite, Bellamy est un conservateur avant d'être un populiste. Alors, le conservateur est une composante du mouvement populiste.
Il était censé ramener l'électorat celui qu'on appelait l'électorat du Trocadéro autour de
l'électorat de
la Manif
pour tous, Trocadéro, qui est une composante, mais qui n'est pas la composante majoritaire. Dans le populisme, il y a peuple, il y a les classes moyennes popularisées partout en Occident. Donc je pense que pour aller les conquérir, c'est beaucoup plus sur la question migratoire, sur la question du protectionnisme économique, et que l'erreur de Bellamy est peut-être de s'en être tenu qu'à la frange la plus conservatrice, qui en fait partie, mais qui n'est pas la totalité. Ensuite, il a quand même fait une campagne qui n'était pas populiste, ni dans le style, puisque le style du populiste, c'est quand même la désintermédiation, c'est de squeezer les médias traditionnels, de squeezer les partis traditionnels, et lui, c'est quand même inscrit à l'intérieur de la droite. Il a rassemblé une famille dont on voit aujourd'hui qu'elle n'existait pas, et ça peut-être été son tort, justement, de ne pas élargir sa campagne, de s'en tenir à l'électorat de droite, conservateur, en pensant que d'ailleurs qu'il y aurait une faible mobilisation durant ces élections. Je pense que ça a été l'erreur, et que ceux qui iraient voter seraient justement les classes aisées conservatrices. Elles ont été votées, mais pas forcément pour Bellamy, et de pas avoir élargi au-delà de l'électorat traditionnel de la droite. Moi, je m'inscris plus dans le clivage droite-gauche. Je crois qu'il y a un clivage effectivement entre les élites et le peuple, les classes populaires, et qui s'est malgré tout bien retrouvé aujourd'hui dans cette élection, avec Marine Le Pen qui, malgré un débat catastrophique dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, arrive là en tête, et en face, l'opposition chimiquement pure, avec l'alliance de deux bourgeoisies, la bourgeoisie urbaine et une bourgeoisie plus classique, qui était justement pour le parti de l'ordre, qui ne voulait plus du désordre des Gilets jaunes, qui a voté pour Macron. Donc ce clivage qui va se dessiner, à mon avis, partout dans le monde occidental, s'est bien dessiné dans cette élection, à ceci près que c'est plus difficile en France, puisque Marine Le Pen s'inscrit dans une généalogie d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas de la plupart des populistes ailleurs, et ça explique qu'il y a un plafond de verre qui est réel.
Selon vous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, François Milner?
Écoutez, je crois qu'on est vraiment dans l'équivoque concernant le mot populiste. Une première question qui devrait se poser, c'est de savoir si la France, avec sa structure sociale et économique, peut être un terrain pour un populisme comparable, par exemple, oui, au populisme des anciens pays de l'Est, où le sentiment national, à cause de leur histoire, est quelque chose qui est encore extraordinairement vivant. Pour les Hongrois, après avoir eu le sentiment que la Hongrie comme telle avait été laminée par le pouvoir d'inspiration soviétique, pour les Polonais, même chose, là, on a un populisme qui est fondamentalement un populisme nationaliste, oui, avec effectivement, s'associant à cela, un retour vers une agriculture de type, disons, 19e siècle, très bien. En France, je ne vois pas du tout le Front National, l'ex-Front National, s'orienter de façon simple vers cela. Marine Le Pen, je pense, ne dit pas des choses du genre « il faut que l'agriculture cesse d'être une agriculture de type industriel ». En fait, je pense qu'une thématique où il y a des éléments de populisme, c'est possible, mais une thématique intégralement populiste, du type Orban ou du type Salvini, me paraît extraordinairement difficile en France. En Italie, ça n'est possible que parce qu'il y a, de la part de Salvini et de ceux qui le soutiennent, en quelque sorte, l'acceptation que l'Italie est coupée en deux, que l'Italie du Sud sera abandonnée à son destin propre, que l'Italie du Nord, disons jusqu'à Rome compris, a les moyens de se construire une zone de prospérité, c'est quelque chose qui, en France, n'est pas du tout développé. Marine Le Pen ne dit pas des choses du genre « l'Alsace va se développer et on va cesser de soutenir la Corrèze », par exemple. Jamais, à aucun moment. Et ça, c'est une vraie limite pour un discours populiste en France.
Bizarrement, les populistes, en tout cas de droite, les identitaires de droite, pour donner une cohérence à leur discours, doivent chercher des exemples à l'étranger, bizarrement.
Pour ce qui est du populisme de droite et pour ce qui est du populisme de gauche, la remarque qui a été faite me paraît juste. C'est-à-dire qu'un populisme de gauche qui, à aucun moment, ne rejoint ce qui constitue les formes d'expression de gauche héritées en France, c'est-à-dire essentiellement la tradition communiste incarné par la CGT, la tradition sociale démocrate, disons, incarnée par, non pas des partis, mais par des sensibilités, si un populisme de gauche qui dirait à aucun moment je ne veux avoir d'affaire avec cela, Mélenchon a essayé de le faire, et on a très bien vu qu'à partir d'un certain moment, il se heurtait à des difficultés majeures. Or, dès le moment, c'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, personnellement, j'ai diagnostiqué la fin du mouvement des Gilets jaunes à partir du moment où la CGT a considéré qu'elle pouvait rejoindre les cortèges. Oui, c'était pour moi le signe que c'était fini.
Alors je voudrais vous poser une question à tous les trois. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe français ? Est-ce que la colère populaire ou populiste fonctionne sur le plan culturel ? Il y a une hégémonie populiste sur le plan culturel, les livres d'Éric Zemmour en témoignent. On peut trouver des exemples de populisme à gauche qui fonctionne culturellement aussi. Mais est-ce que ça trouve vraiment sa traduction dans politique au bout du compte ? Est-ce que la colère populiste est une narration française du genre mythéco-poétique, quelque chose qui définirait le caractère national, mais qui ne trouverait pas sa traduction politique réelle? C'est-à-dire, si on cherche des exemples historiques, si on regarde ce qui s'est passé dans les années 30, par exemple, même à l'époque où, mettons, l'Action française était très puissante, elle n'a pas pu arriver au pouvoir. Il a fallu une occupation, il a fallu la défaite de 40 pour qu'il y ait un tremblement de terre réel pour arriver à une traduction politique. Est-ce que finalement, la stratégie de l'hégémonie culturelle n'est pas une victoire à la Pyrrhus, en fait?
Je pense que peut-être on a surestimé l'importance du combat culturel. Je pense que ça vient plutôt du bas, en fait, le populisme. C'est une révolte des classes populaires qui ont fait leur diagnostic sur la mondialisation. Je crois que c'est pas, vous êtes dans l'Action française, etc. C'est pas quelque chose de très idéologisé. C'est simplement les classes populaires majoritaires qui font le constat que depuis 40 ans, ils sont dans la mondialisation. Au départ, ils l'ont accepté. Aujourd'hui, ils voient que ça fait baisser leur niveau de vie, ça fait disparaître leur mode de vie et ils se révoltent contre cette réalité. Là. Et ensuite, il y a des partis qui vont prendre en charge cette demande. Le problème spécifique, à mon avis, à la France, c'est que le parti qui prend en charge cette demande aujourd'hui est le Rassemblement National et que ça reste un tabou pour une partie des Français, puisque pour moi, je le dis, Marine Le Pen n'est plus d'extrême droite, mais quand même, elle est héritière d'un parti qui l'a été. Et après, elle a, à mon avis, des limites personnelles que n'ont pas les autres leaders populistes. Elle les a affichées lors de la présidentielle. Donc, le Front National fait barrage, en quelque sorte, à un grand mouvement populiste qui pourrait être le miroir inversé d'En Marche. Ceci étant dit, moi, je crois que ça progresse réellement et que d'ailleurs, Emmanuel Macron ait la chance historique d'un parti populiste. Le fait qu'il ait anéanti le clivage de la droite-gauche fait qu'à un moment ou un autre, il y aura une opposition dans ce pays, et cette opposition, ce sera ni la droite classique, ni le Parti Socialiste.
Manuel Cervera-Marza.
Oui, moi, les phénomènes que j'observe actuellement en France, je vois globalement les mêmes. Alors, il y a des différences de rythme, il y a des différences, il y a des spécificités nationales, mais je les vois quand même globalement ailleurs en Europe, et même en Amérique latine et aux États-Unis. Donc, je serais peut-être assez nuancé sur l'idée d'une singularité française, mais par contre, il y a un point qu'on n'a pas abordé, j'aurais d'ailleurs aimé l'aborder plus tôt, c'est que moi j'appelle à beaucoup, beaucoup de prudence avec l'utilisation de ce terme populisme qui parfois obscurcit davantage la réalité qu'il ne l'éclaire, et ce pour différentes raisons. D'abord parce que j'ai un vrai problème à qualifier de populistes des partis qui sont en fait des partis d'extrême droite, des partis xénophobes, parfois même des partis néonazis qui revendiquent ouvertement comme Obdoré ou le FPO
leur filiation néonazie. Obdoré est une exception,
Pourquoi ? Mais pour une raison extrêmement simple, parce que c'est leur faire un cadeau absolument immense, c'est suggérer de manière sous-jacente que ces partis sont populistes, donc du côté du peuple, alors qu'il faut appeler un chat, ce sont des partis xénophobes, des partis islamistes.
Mais on peut
donc
pas être les deux. Comment pas être xénophobe et populiste?
Non, je pense que c'est pas la même chose. Il y a un autre problème là-dessus, c'est que il faut voir que le terme de populiste, c'est aussi une arme idéologique utilisée par l'extrême centre pour regrouper comme ça les extrêmes et avancer cette thèse mais séculaire des libéraux, à savoir qu'il y aurait une conjonction des extrêmes. Et puis il y a quand même un troisième problème, c'est que très souvent quand on parle de populisme et qu'on décrit ces phénomènes comme étant populistes, c'est en sous-entendant derrière, évidemment c'est jamais affirmé explicitement, mais c'est ça quand même le sous-entendu, c'est que le peuple serait une masse stupide et ignorante qui se laisserait charmer par le premier démagogue venu. Et donc en fait ceux qui parlent de populisme trahissent par là leur inconscient élitiste, en fait leur vision extrêmement condescendante de ce qui est le peuple. Et enfin, dernièrement,
vous êtes sûr que c'est pas un discours populiste, justement? C'est un peu on se mord pas la queue là.
Ben non, je pense pas. Je pense que justement le populisme, en fait, littéralement, si c'est défendre le peuple, bon ben le populisme, c'est l'essence même de la démocratie. Voilà, c'est l'essence même de la démocratie. Et quand vous dénoncez la montée des populismes, en fait, finalement, ce que vous dénoncez, c'est la souveraineté souveraineté populaire et donc vous manifestez votre antidémocratie.
C'est pour ça que moi-même, c'est un mot que je considère quand même avec beaucoup de prudence et qui est extrêmement équivoque et qui est toujours chargé d'une connotation, disons, d'un jugement de valeur et qui peut se renverser. Dans certains cas, on dira, si on revient à peuple, alors le populisme est fondamentalement une bonne chose, mais malheureusement, ça, bon, très bien. Ou alors, il y a effectivement un phénomène de condescendance. Mais je voudrais en revenir à des problèmes plus historiquement situés. La singularité de la France, je crois qu'il y en a une malgré tout, c'est que un des éléments, si on avait posé la question à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous souhaitez que la sécurité sociale cesse de fonctionner ? Ma réponse aurait été, à mon avis, évidemment non. Est-ce que vous souhaitez que l'école publique cesse de fonctionner ? Ma réponse aurait été évidemment non. Et puis, on aurait pu avoir toute une série de choses de cet ordre. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que parmi les demandes venues du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de demandes sont venues sur des thèmes du type « il faut que les riches payent des impôts ». C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une demande qui s'appuie sur le sentiment qu'il y a une injustice fiscale, que le poids fiscal est trop lourd pour une certaine partie de la société, mais qu'il est trop léger pour une autre. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dernier ressort, la confiance est mise dans quelque chose qui s'appelle tout simplement l'appareil d'État.
Oui.
Un populisme qui a confiance dans l'appareil d'État, à mon avis, ça n'est pas un populisme. Les populismes authentiques commencent par une très grande méfiance à l'égard des appareils d'État. Et d'ailleurs, parmi les thèmes, alors là je ne parle pas des gilets jaunes, si j'ose dire, de base, mais parmi les thèmes des mouvements qui se sont greffés sur les gilets jaunes, qui ont repris des thématiques qui venaient de leur propre histoire, je pense au référendum d'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, on peut être pour ou on peut être contre, mais ce qu'il signifie, c'est que tout ce qui est appareil du type législatif ou exécutif, et en dernier ressort, tout ce qui, soit directement, soit indirectement, se rattache à l'appareil d'État, est sujet à caution. Le référendum d'initiative citoyenne, d'abord parce que c'est une initiative qui vient des citoyens et non pas du sommet, et ensuite, parce que cette initiative est citoyenne, et en France, citoyen, ça veut dire, pas nécessairement dans les faits, mais dans la bouche de ceux qui disent initiative citoyenne, ils n'auraient pas dit, je pense, nous excluons de ce mouvement citoyen, nous excluons, par exemple, les immigrés. Ils auraient inclus les citoyens de ce référendum d'initiative citoyenne, ils auraient inclus des immigrés qui, du point de vue technique, n'ont pas la carte d'identité, n'ont pas la carte d'électeur, etc. Or, je répète, cette demande-là, elle est très clairement une demande qui a été importée dans le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, en lui-même, à son départ, était une demande adressée à l'appareil d'État en disant « Mais faites votre travail d'appareil d'État. Votre travail d'appareil d'État, en France, c'est d'arbitrer de telle manière que les effets du système économique, les effets de la mondialisation, si vous voulez, soient corrigés. »
Soit corrigé par les puissances publiques.
Voilà, mais ça, confiance-là, elle ne se trouve à ce degré-là que dans un pays comme la France. Vous allez aux États-Unis, la moitié des États-Uniens n'ont aucune confiance dans l'État. Vous allez en Grande-Bretagne, même chose. Vous allez en Allemagne, c'est plus compliqué, mais vous trouverez beaucoup plus de méfiance. Même chose pour le mouvement populiste italien. Donc, il y a malgré tout une singularité française, et peut-être qu'on peut la résumer en disant qu'il y aura toujours une limite à ne pas franchir dans le récit de la révolte populaire.
Voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure à propos du caractère national, le moment où ça s'arrête à un moment donné.
La notion d'État reste quelque chose.
Alors, est-ce que ce n'est pas contourné par la référence aux élites ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'État dont on se méfie, mais ce sont les élites qui font tourner l'État.
Bien sûr. Dans les faits, l'État auquel, spontanément, la majorité des Gilets jaunes conservaient leur confiance, c'est-à-dire ils n'auraient pas dit l'État peut-être, mais ils auraient dit oui, la sécurité sociale, oui, l'hôpital public, oui, à l'école publique, oui, un système des impôts qui soit juste, oui, à une police qui ne tabasse pas, mais qui protège les individus contre les violences, oui, à la gendarmerie, enfin... y compris, oui, à l'armée, puisque au début, on a même fait l'éloge du général de Villiers, de sa droiture. Enfin, tout cela renvoie à l'idée que l'État, ces appareils-là, en eux-mêmes, sont très bons.
Oui.
Leur idée, l'idée qu'ils existent, est fondamentalement juste et bonne, mais il y a eu une confiscation. Et le mot d'élite... résume ce sentiment de confiscation.
Exactement, mais c'est ce que disait déjà Christopher Lasch dans La révolte des élites et la trahison de la démocratie, justement, en 95. Mais je crois que ça s'applique au populisme européen ou américain avec Donald Trump. C'est évidemment une demande de représentants, qu'il ne s'agit pas d'abolir toute représentation, même dans le référendum d'initiative populaire, il s'agit simplement de corriger une démocratie représentative qui apparaît pour un certain nombre de gens de moins en moins représentative, notamment parce qu'elle est entravée par des pouvoirs supranationaux, par le pouvoir des juges, etc. En fait, c'est une demande dans le populisme, il y a une demande de politique et de démocratie. Et le sentiment d'une grande impuissance de la politique aujourd'hui à régler les problèmes des majorités.
Alexandre Vera.
Oui, ce qui est intéressant, vous disiez en ouvrant l'émission, vous citiez Barbara Stiegler qui parlait d'un découplage entre la réalité sociale du pays telle qu'elle a été manifestée par les Gilets jaunes, avec notamment, on a vu, les demandes, Jean-Claude Milner l'a très bien dit, les demandes qui ressortaient majoritaires, c'était référendum d'initiative citoyenne, hausse du SMIC, rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'était ce genre de choses. Et c'est pas des thèmes, on peut pas dire que ce soit des thèmes, ces trois grands thèmes qui sont portés par les forces politiques qui sont arrivés en tête des élections. Donc on voit vraiment le découplage entre les deux. Mais à l'instant, Alexandre Devecchio disait que ce mouvement se proposait comme un complément ou un correctif à la démocratie représentative. Et c'est vrai qu'il y a de ça, bien sûr. Il y a de ça dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu de ça aussi dans les mouvements des places, hein, qui proposaient non pas l'abolition de la représentation politique, mais une meilleure représentation, avec aussi plus de jeunes, plus de femmes, plus de diversité, enfin ce genre de choses. Mais je crois quand même qu'il y a aussi un élément dans une fraction de ces mouvements d'occupation des places, d'occupation des ronds-points, d'occupation aussi des zones à défendre, ce qui montre aussi combien l'occupation plutôt que le vote est en train de devenir aussi un des modes d'action politique peut-être les plus privilégiés ou en tout cas qui prend de l'importance aujourd'hui. Je crois que dans ces modes d'action, l'occupation c'est de l'action directe, c'est des citoyens qui disent on arrête de déléguer à d'autres, à des professionnels de la politique, on s'en empare, on fait par nos propres moyens. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'au lieu de demander à l'État faire pour nous, de faire mieux, on se dit non, on va nous-mêmes régler les choses. C'est aussi toutes les dynamiques autour des communs, hein, de personnes qui vont, voilà, entre elles s'auto-organiser pour gérer les ressources, ça peut être l'eau, un fleuve, etc.
Ça existe. Certainement. Que cela existe autant que vous avez l'air de le penser, ça, je suis beaucoup plus sceptique. Moi, pour vous dire mon sentiment, je suis très étonné que de la facilité avec laquelle on dit qu'il y a eu un grand mouvement social en France. Mmh. Il se trouve que j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vécu mes 68. Je rappelle qu'en mai 68, tout a été bloqué pendant un mois.
10 millions de grévistes.
Mais ce que ça veut dire, c'est pas simplement des grèves. Je veux dire, ça veut dire que tout a été bloqué. C'est-à-dire que la poste ne marchait pas, les trains ne marchaient pas, on ne savait pas je pense aux fonctionnaires, ils ne savaient pas s'ils toucheraient leur traitement à la fin du mois. Dans les usines, puisqu'il y avait des grèves, ben, il y avait évidemment pas. Donc tout était bloqué. La sécurité sociale ne marchait pas, rien ne marchait. Donc par rapport à ça, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui, en fait, a bloqué la circulation dans quelques grandes villes, quelques métropoles, essentiellement Paris, avec quelques violences de rue visibles, mais qui en elles-mêmes ne sont pas, comment dire, des Parisiens, on en a vu d'autres. Parler de mouvement social, ça me paraît curieux. Je dirais volontiers qu'il y a un mouvement sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des couches sociales, des couches de la société, mais en tant que couches sociologiquement définissables, qui ont manifesté leur insatisfaction, qui l'ont manifesté parfois en admettant que d'autres qu'eux-mêmes fassent des choses qu'eux-mêmes n'auraient pas faites, mais allant dans un sens qui, disons, soutenait leurs propres revendications. Mais tout cela, mis bout à bout, moi j'ai plutôt l'impression d'un très long fait divers qui s'est étendu sur, semaines, mais qui s'est concentré sur deux jours par semaine ou un jour par semaine, mais pas, j'ai pas eu le sentiment d'un mouvement social au sens strict du terme.
Mais alors, est-ce que la différence entre les deux, entre un mouvement social qui existerait et quand même cette espèce de mécontentement qu'on sent et qui reste finalement, qui reste là,
Le mécontentement reste.
Il y a quelque chose dans cette critique des élites sur laquelle on peut, qui alimente effectivement un mécontentement plus ou moins diffus, plus ou moins violent, que tout le monde essaye plus ou moins. Juan Branco a essayé de le formuler dans son livre de manière plus ou moins réussie, enfin plutôt au moins. Et vous, Jean-Claude Milner, dans votre livre, vous le caractérisez assez bien. Je voudrais vous citer vous dites Macron s'inquiète de l'impuissance des élites, il ferait mieux de s'inquiéter de leur nullité. Et vous avez tout un passage sur lequel vous critiquez, tout le monde sait l'ENA, tout le monde sait, vous devrez savoir que l'ENA a mené une guerre sourde et acharnée pour se réserver l'accès au poste de pouvoir. Ce qui restera matériellement, finalement, des analyses de Bourdieu, c'est le monopole des énarques sur le pouvoir administratif et sur l'encadrement industriel. Alors, la formation des énarques les voue de plus en plus à l'ignorance et à ne pas même imaginer ce qu'est un savoir, qui plus est le mouvement de déculturation s'accélère, ne sachant rien par eux-mêmes, ayant souvent bénéficié pour leur réussite de réseaux familiaux plutôt que de leur propre mérite et des entours du pouvoir administratif et industriel, se réfèrent à la presse pour être informés. Or, celle-ci en France souffre des mêmes maux. Les écoles de journalistes ne valent pas mieux que l'ENA, si bien que le serpent de la nullité se mord la queue. Est-ce que ça résume pas
C'est bon sentiment. C'est bon sentiment. Je suis frappé, effectivement, par le fait que la logique Je me place du point de vue de quelqu'un comme Emmanuel Macron. Bon, il est clair qu'il considère que l'Europe, surtout après le Brexit, que l'Europe est faite pour être non seulement un lieu où la France compte, mais qu'elle soit gérée par l'Europe. Que la défense européenne soit assurée par l'armée française, que l'économie soit déterminée par la France, avec un modèle qui soit un modèle où le libéralisme soit en quelque sorte modéré par le souci d'un modèle social, cette espèce de en même temps qui veut dire en même temps modèle social et en même temps, bon, très bien. Et la réalité, c'est que il n'a absolument pas en main les instruments pour le faire. Qu'est-ce que c'est que ces instruments? Ben, c'est tout simplement des hauts fonctionnaires capables de faire ça. Les hauts fonctionnaires français dans l'espace bruxellois sont la risée générale. Par rapport aux fonctionnaires britanniques, n'en parlons pas, mais ils vont s'en aller peut-être. Et par rapport aux fonctionnaires allemands. Or là, si, je ne dis pas du tout que la réforme prévue par Emmanuel Macron sera un succès, je ne sais rien. Mais ça répond à quelque chose de très précis. C'est qu'il veut, est-ce qu'il parviendra, je ne sais pas, mais il veut que les hauts fonctionnaires français soient dans l'espace bruxellois, capable d'exercer l'hégémonie à laquelle il pense que lui-même, en tant que président de la République, et la France, en tant que pays, ont droit. Tout ça, c'est de façon très confuse, dans l'esprit de ceux qui manifestent leur insatisfaction, il y a malgré tout une conscience de quelque chose. C'est-à-dire que il y a d'un côté, à mon sens, une demande en dernier ressort adressée à l'État, comme autrefois le peuple français, je veux dire sous la monarchie, s'adressait au bon roi. Il ne sait pas tout ce qui se passe. D'un certain point de vue, l'État, le nom État ou public est devenu quelque chose comme ça. Et en même temps, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ce pouvoir d'État, bien, ce sont des gens en qui on n'a aucune confiance.
Vous êtes d'accord avec ça, tous les deux,
oui, Alexandre Di Becchio? À ceci près que le projet Macron de souveraineté européenne, c'est comme ça qu'il l'appelle, est un projet fédéraliste et que c'est un projet qui ne peut pas se faire sans le peuple. Je crois que la question européenne était au cœur, même si ça n'a pas été formulé directement par les acteurs, du mouvement des Gilets jaunes, dans le sentiment de dépossession démocratique. Alors je pense qu'il y a un sentiment de dépossession identitaire également, mais un sentiment de dépossession et démocratique, il est lié au fait que aujourd'hui on a des technocrates, des fonctionnaires, comme vous le disiez, qui décident du destin des peuples et qui n'ont pas la légitimité pour se faire. Je crois que Emmanuel Macron a certes gagné l'élection présidentielle, il est légitime, mais il a peut-être pas la légitimité pour imposer ce projet-là, qui à mon avis est extrêmement minoritaire dans la société. D'ailleurs, il le sait très bien. S'il parle de souveraineté européenne, c'est une manière de jouer sur les mots et de pas parler de fédéralisme, parce qu'il sait très bien que si demain il y avait un référendum sur l'Europe fédérale, il le perdra à plat de couture.
On est obligé de très vite, Marie-Lécaire
Marzal. Non, très vite, parce que je trouve que le constat de défiance très largement partagé par la population envers les élites est juste, mais je pense qu'il faut préciser ce constat. Et ce qui m'a frappé, moi, avec les Gilets jaunes, c'était que la critique s'adressait, parce qu'il y a des élites au pluriel. Il y a les élites économiques, la figure du patron, les élites politiques, la figure de l'élu, et les élites médiatiques, la figure du journaliste. Et j'ai été frappé par le fait que les Gilets jaunes se sont moins tournés et ont moins critiqué les patrons, pour plusieurs raisons. Parce que c'était des auto-entrepreneurs parfois, donc c'était leur propre patron. Quand on bosse dans une PME, on connaît bien son patron, donc on a plutôt une bonne relation avec lui. Ou alors, quand dans le 440, on connaît pas son patron, mais c'était vers les journalistes ou les élus politiques, qui sont les plus visibles, en fait, les élites qui s'exposent le plus.
Parce que les élus sont censés faire leur boulot et imposer un capitalisme national régulé. En fait, c'est ce que demandaient les Gilets jaunes, un capitalisme national régulé. C'est
pas. Pour finir, vous laissez une question ouverte dans votre livre. Vous dites le sommeil où l'Europe est plongée depuis des années, est-il un accident dû à des dirigeants paresseux, ou bien a-t-on affaire à un sommeil structural dû au fait qu'elle est née à la Seconde Guerre mondiale, de l'aide de la Seconde Guerre mondiale, alors que de moins en moins d'Européens savent que cette guerre a eu lieu? L'Europe est-elle une figure de l'avenir ou du passé?
C'est une vraie question pour moi. Il est clair que le thème du plus jamais ça, c'est-à-dire plus la guerre. Aujourd'hui, ça reprend un petit peu de souffle à cause des cérémonies du débarquement. Mais je pense que c'est très court. L'idée que il y ait une promesse européenne, j'ai le sentiment que plus personne n'y croit. Et que la question européenne, c'est comment s'arrange-t-on avec ce qui est.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
qui parleras d'elle, maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.